Quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour, bon 19 juin 2025. 19 juin, il me semble que c'est une date importante.
Ah oui.
Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, Vendée Laurier?
Ah oui, moi c'est une date très importante. J'ai commencé ma vie un 19 juin.
Et oui, est-ce que vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous êtes né? Est-ce qu'on vous l'a dit?
Ah oui, il me semble qu'on me l'a dit, puis il me semble que c'était en
à 9h30?
Début d'après-midi.
Ah, okay.
C'était en début d'après-midi, il me semble.
Ah bon, vous ne souhaitez pas bonne fête d'abord?
C'était un mardi, en tout cas.
Ah oui, un mardi. C'était pas un petit mardi au bureau pour votre mère, en tout cas.
Non, non. Surtout que j'étais le premier, alors.
C'était
ma première expérience.
Le premier de combien?
Trois
enfants. Ben, bon anniversaire, oui. Cher collègue, ami.
Merci.
Santé, beaucoup de plaisir en tout genre.
Oui.
Alors, Yvan, vous n'êtes pas en studio aujourd'hui parce que vous avez des rendez-vous. Vous êtes un homme très occupé, mais vous avez quand même pris le temps de préparer une chronique qui concerne le basketball.
Oui, parce que ce soir, c'est le sixième match de la finale de la NBA entre le Thunder d'Oklahoma City et les Pacers de l'Indiana. Si les Pacers de l'Indiana gagnent, non, c'est Oklahoma. Si Oklahoma City gagne, c'est eux qui remportent le championnat, une espèce de Coupe Stanley de la NBA, si on veut. Mais c'est pas ça qui nous intéresse tant que ça. C'est qu'il y a des joueurs, il y a deux joueurs qui jouent l'un contre l'autre, qui viennent de Montréal-Nord.
Bien oui.
Et c'est Lugansdor et Bénédicte Mathurin. Et on va raconter un petit peu leur parcours.
Merci beaucoup, Yvan. Et Monique Kirouac est au bout du fil aussi. Bonjour, Monique.
Bonjour, Hélène.
Monique, vous nous rappelez l'importance de la lecture ce matin.
Ben oui. Vous allez prendre des vacances, Hélène. Alors,
oui.
J'imagine que vous avez une liste de lectures que vous allez faire.
Ah oui, je commence à la concocter, là.
Ah, c'est bien. Des ouvrages de fiction?
Ah, peut-être À la recherche du temps perdu.
Oh mon Dieu!
De Marcel Proust.
Vous en avez pour l'été. Alors oui, c'est important de lire comme adulte, mais surtout aussi comme enfant. Et c'est un article de Raphaël de Rome pour la revue Québec Science qui m'a beaucoup intéressée. Alors il y a des recherches scientifiques qui exposent l'importance de la lecture pour les adultes, mais surtout pour les enfants. C'est extraordinaire l'impact sur notre cerveau, sur nos habiletés verbales, sociales. Alors, je vais faire état de ces différentes recherches qui confirment le pouvoir indéniable de la lecture des ouvrages, surtout de fiction, mais lire, c'est quand même n'importe quel type de livre est important.
Merci beaucoup, Monique. Et on aura aussi la chronique Psychologie sociale en compagnie de Roxane de la Sablonnière. Et son sujet d'aujourd'hui s'intitule « Les représentations de la différence de poids corporel dans les émissions de télé-réalité ».
En entendant sa voix, je saurais que tous ces
En entendant ses pas, c'est une chanson de Céline Dion, si vous ne l'aviez pas reconnue.
Excellente nouvelle. Le Québec t'aime, Claire, c'est la une du Journal de Montréal, la petite Claire qui a été retrouvée vivante et son regard en dit long. Quelle petite fille attachante. Maman m'a dit d'attendre. Voilà ce qu'aurait dit la petite Claire Belle lorsque les policiers l'ont retrouvée après 3 jours de recherche acharnée. Il était 15h06 lorsqu'un drone de la police provinciale de l'Ontario survolant un secteur rural du village Saint-Albert, a localisé l'enfant déshydraté. À la surprise de tous, elle était saine et sauve. On l'a retrouvée. Merci pour l'aide de chacun. S'il vous plaît, permettez à moi et à ma famille de prendre du temps avec ma fille, à partager sur les réseaux sociaux le père de Claire. La belle nouvelle a été rapidement partagée à travers la province. Tous ont ressenti un soulagement instantané. Évidemment, les policiers qui la cherchaient sans relâche depuis dimanche se sont fait de chaudes accolades et étaient tout sourire face à cet heureux dénouement. L'enfant a été amené au centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario afin qu'elle soit examinée. On ignore comment elle a réussi à survivre seule depuis dimanche, surtout en considérant la chaude température des derniers jours. Tout porte à croire que la mère, Rachel Ella Todd, aurait abandonné la petite dans un fossé en bordure de l'autoroute 417, tout près de la sortie vers le village de Saint-Albert. Elle serait même repassée devant le lieu pour voir si on l'apercevait depuis la route. La mère a été accusée d'abandon d'enfant lundi au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. La mère de 34 ans est demeurée impassible hier au tribunal. On ignore si d'autres accusations seront portées contre elle. À la une du Devoir, on parle de Claire, on en parle partout. Claire Belle, retrouvée saine et sauve. La fillette a été aperçue seule en bordure de l'autoroute 417 dans le secteur de Saint-Albert, en Ontario, grâce à des drones de la police provinciale de l'Ontario. Elle était consciente et parlait au moment où elle était prise en charge par des policiers. À 15h06, a précisé la porte-parole de la SQ, Héloïse Cossette. C'est le meilleur scénario qu'on pouvait espérer, a indiqué Mme Cossette. Pour l'instant, on s'assure de la nourrir et de l'hydrater. On veut remercier vraiment la population qui a embarqué, qui nous a transmis de précieuses informations, poursuit la porte-parole. Si on arrive à ce résultat-là aujourd'hui, c'est grâce à la collaboration et à la participation de tout le monde. Environnement, c'est un autre titre à la une du Devoir. L'humanité sur le point de dire adieu à un avenir climatique sécuritaire, un titre pas du tout rassurant. Alexandre Shields qui nous parle de l'humanité, notre incapacité collective à réduire notre dépendance aux énergies fossiles et notre manque d'ambition dans la lutte contre la crise climatique sont en voie de ruiner les chances de limiter les dérèglements du climat à un seuil sécuritaire, préviennent une soixantaine de scientifiques dans une nouvelle étude internationale. Dans ce contexte, ils soulignent que l'ajout de projets pétroliers et gaziers ne fera qu'aggraver la situation. Logement, le Devoir enquête, des entreprises tirent profit de la sous-location. Des entreprises instrumentalisent le Code civil du Québec en agissant à titre de locataire de logement qu'elles sous-louent ensuite à fort prix à des étudiants étrangers et à des travailleurs temporaires auxquels elle impose des conditions de location interdites dans les baux traditionnels. Et puis, à la une de la presse, plus, on voit la petite Claire. « Maman m'a dit de l'attendre. » Le Québec entier a poussé un grand soupir de soulagement quand la petite Claire Belle, 3 ans, a été retrouvée saine et sauve 3 jours après sa disparition. Durant tout ce temps, les policiers déployés n'ont jamais cessé d'espérer, raconte le chroniqueur Patrick Lagacé. On parle aussi de Uber Eats. Avec Uber Eats, la facture d'épicerie passe de 38 à 82. Marie-Ève Fournier a fait le test. C'est proprement scandaleux. Et puis, sous influence, Alyosha Schneider de Delune à Proust. C'est pour ça que je disais à Monique que je voulais lire À la recherche du temps perdu. Il m'en a donné envie. C'est tout un projet, ça, À la recherche du temps perdu. Je pense qu'il y a 7 livres, 7 tomes. Et Alyosha Schneider dit que c'est la plus grande chose qu'il n'ait jamais lue de sa vie. Il parle aussi de son amour pour notamment Bob Dylan, pour Jean Leloup. Vraiment, super entrevue avec Alyosha Schneider qui est menée par Marc Cassivi. L'auteur, compositeur, interprète sera au Franco le 21 juin et au Festival d'été de Québec le 7 juillet.
Mon cher Yvan, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Yvan, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour.
Bonne fête, Yvan!
Merci, merci à vous deux.
Alors, notre ami Mathieu là, fait des recherches pour trouver une trame sonore de Jean du Pays. Là, juste la musique, là, et ça a été comme le parcours du combattant. Il l'a trouvé, et puis nous, on a chanté encore plus fort parce qu'on voulait que vous nous entendiez.
En fait, je ne l'ai pas fait jouer.
Ah, oh, OK, c'est ça, je me disais, on ne l'entend pas.
J'étais sur Mont-Royal hein, quand ça a été lancé.
Pour
il y
vrai?
A 50 ans. Ouais.
Wow! Non, mais c'est drôle parce que hier, la chronique de Daniel Lachance portait là-dessus l'histoire de Jean du Pays qui a 50 ans cette année. Donc, vous y étiez en 1975. Si vous avez 69 ans aujourd'hui, donc vous étiez là à 19 ans.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous s'en souvenez? Ben oui, parce que vous l'avez dit, là, mais est-ce que ça demeure un souvenir extraordinaire dans votre tête, dans votre cœur?
Oui. Je me souviens à peu près où j'étais par rapport à la scène et tout ça. Puis c'était Yvon Deschamps, il me semble, qui avait présenté la chanson. Il disait, au lieu de faire le Happy Birthday, oui. on va présenter une nouvelle chanson de fête québécoise. C'est comme ça que ça avait été lancé.
Avec Louis puis, Forestier.
Oui. Puis quand je l'ai entendu... En tout cas, moi, j'étais loin de soupçonner que 50 ans plus tard, ça deviendrait effectivement la chanson de Bon anniversaire. Mais
vous avez été
chanson.
Témoin d'un moment historique.
Oui, tout à fait.
Mathieu. Bye.
J'ai eu Daniel se demandait si c'était connu en France et j'ai fait une petite recherche et j'ai eu une réponse après l'émission et on m'a dit, par une personne bien sûr, que non, c'était pas utilisé du tout. Dans sa famille, ouais. Dans son environnement proche.
C'est notre hymne national officieux, mais certains trouvent que c'est notre hymne national officiel. Alors, Yvan, à vous de jouer avec le basketball ce matin et deux joueurs de basket, deux Québécois de Montréal-Nord.
Oui. Alors, comme je le disais en entrée d'émission, ce soir, je pense que c'est à 8h30, le Thunder d'Oklahoma City et le Pacers d'Indiana vont jouer un contre l'autre. C'est 3-2, 3 victoires à 2 pour Oklahoma City. Donc, si Oklahoma City gagne, ils vont gagner le championnat de la NBA. Comme je suis pas tellement le basketball, je peux pas vous dire si c'est un trophée, si c'est des médailles. J'en ai pas la moindre idée. Mais c'est sûrement un championnat majeur, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ce qu'il y a de particulier cette année, c'est que il y a deux joueurs. Il y a un joueur dans chacune des équipes et un joueur régulier. Ce n'est pas un joueur qui est sur le banc, qui embarque une fois de temps en temps. Là. C'est deux joueurs réguliers. Bénédicte Mathurin pour les Pacers d'Indiana et Lou Gansdorf du Thunder d'Oklahoma City qui s'affrontent. Et c'est deux jeunes hommes qui ont vécu à Montréal-Nord à quelques maisons l'un de l'autre. Et je vous raconte un peu leur histoire. C'est dans un article de la presse du début juin, du 8 juin, sous la plume de Éric Martel. Ça s'appelle « L'espoir alimenté par Dort et Mathurin ». Donc, dès que l'on mentionne la présence de Logan Dort et de Bénédicte Mathurin, tous deux originaires de Montréal-Nord, en finale de la NBA, à notre arrivée, l'arrivée de la presse au Parc Saint-Laurent, il y a Rodrigue Sirius qui accourt vers nous. Le basketteur de 13 ans est l'un de ces milliers d'adolescents qui rêvent un jour de se retrouver dans leurs chaussures. Rodrigue nous avertit, il connaît peu la NBA. Rarement a-t-il la chance de voir ses héros à l'œuvre pour une raison bien simple. Il n'y a pas de télévision à la maison. Si Rodrigue sait qui est Lou Gansdorf, c'est parce qu'il l'a déjà rencontré l'été dernier, à peu près là où il se trouve à ce moment, au moment où la presse l'a rencontré. La vedette présentait deux courts rénovés dans le cadre d'un de ses énièmes projets pour redonner à la communauté. Il nous a dit qu'il fallait continuer, suivre nos rêves. il a presque atteint l'impossible. Il n'a pas laissé les épreuves l'arrêter, raconte Rodrigue, qui pratique le basket plusieurs fois par semaine sur les courts rénovés par Dort. Comme Lugansdor avant lui, Rodrigue Sirius fréquente l'école secondaire Calixa-Lavallée. Comme lui, il est d'origine haïtienne et réside à Montréal-Nord. Et comme lui, il rêve à une carrière chez les pros. Un rêve rendu atteignable puisque le chemin pour s'y rendre a désormais été défriché. Au club de basketball de Montréal-Nord, le téléphone du directeur Willman Edouard sonne sans cesse. La journée est à peine entamée qu'il a déjà reçu les demandes d'inscription de 10 jeunes. Ça n'arrête pas, je suis obligé de fermer mon téléphone. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, Willman Edouard, à une époque dans la presse, il y avait des personnalités de la semaine, je pense. Et Willman avait déjà été une des personnalités de la presse en 2018, les recherches que j'ai faites. À l'arrivée du Montréalais Chris Boucher dans la NBA en 2018, les inscriptions se sont multipliées par 10, explique-t-il. Elles ont connu une autre croissance après celle de Lugansdor et de Bénédicte Mathurin les années suivantes. Leur présence en finale cette année les a fait exploser. La relation de cause à effet est évidente, puisqu'au club, les jeunes veulent mouler leur jeu en fonction des faits et gestes de Lugansdor, choisi pour faire partie de la première équipe d'étoiles en défense de la NBA. Avant, les jeux défensifs n'étaient pas la tasse de thé de personne. Maintenant, j'en entends toujours parler. Les jeunes veulent tous jouer en défense, c'est M. Edouard qui parle. Ils disent qu'ils veulent « lock » les autres, empêcher les adversaires de marquer. Ça, c'est complètement nouveau et ce n'est pas un hasard. Ce désir d'imiter Dort et Mathurin, l'entraîneur s'en sert. Il rappelle à ses meilleurs athlètes que leur talent ne suffira pas. Quand Lugansdor était à Calixa-Lavallée, il y avait des joueurs plus talentueux, plus grand que lui. Mais il avait une volonté, une éthique de travail, comme Bénédicte, décrit Edouard, qui a déjà fréquenté les deux joueurs. Sans le savoir, Dort et Mathurin permettent de sauver certains gars qui n'ont pas une éthique de travail naturelle. Ces gars-là finissent par faire un bon bout de chemin grâce à eux. Chaque année, durant la saison morte, Bénédicte Mathurin visite l'école secondaire Henri Bourassa dans le quartier où il a grandi. Ces visites transforment les jeunes de l'école, selon le coordonnateur du programme de basketball, Ricardo Telamone. Tout est différent depuis que Bénédicte est chez les pros, assure-t-il. On le voit dans la motivation des jeunes sur le terrain. On n'a plus besoin de les convaincre de venir au gymnase. Avant, il n'y avait personne aux séances de surplus les dimanches. Maintenant, les gymnases sont pleins. Cette influence-là, elle vient de Bénédicte. L'influence du joueur des Pacers se ressent jusque dans les salles de classe. Cette année, tous les joueurs de basketball d'Henri Bourassa devraient obtenir leur diplôme. C'est comme ça depuis quelques années, mais c'était différent avant, assure M. Telamone. On a remarqué que les enfants prennent plus au sérieux l'école. Ils ont compris qu'elle peut leur ouvrir les portes, comme ça a été le cas pour Mathurin. Car si la plupart des jeunes caressent le rêve d'une carrière en basketball, peu le réaliseront. Connaissant cette réalité, les entraîneurs amateurs souhaitent surtout inculquer de bonnes valeurs à leurs joueurs. Beverly Jacques en sait quelque chose. Le cofondateur du programme DOD Basketball ou DOD Basketball, qui utilise ce sport pour sortir les jeunes de la pauvreté et de la criminalité, rappelle souvent la persévérance et l'éthique de travail de Lugansdor à ses joueurs. Il dit On espère qu'ils pourront vivre de leur sport. On leur donne tous les outils pour qu'ils s'y épanouissent. Mais à la fin de la journée, on veut surtout qu'ils deviennent de bons citoyens. Je leur explique que ce petit ballon orange, il pourra les mener n'importe où. Peu importe à quel niveau de basket tu te rendras, les valeurs que tu auras acquises te serviront toute la vie. Puisqu'ils misent sur les valeurs dans ses enseignements, Beverly Jacques s'avoue très fier de voir Lugansdorf redonner à sa communauté. Celui qui l'a chapeauté aux Jeux du Québec organise des camps de basketball assez frais, en plus de reconstruire des terrains de basket à Montréal. Et comme Bénédicte Mathurin, il s'implique comme porte-parole contre le vapotage auprès du RSEQ, le Réseau des sports étudiants du Québec. Au-delà des feintes, des dunks, lorsqu'on retracera la carrière des deux hommes, c'est peut-être de cela qu'on se souviendra. Quand on pense à Laurent Duvernay-Tardif, on voit le médecin qui s'implique dans sa communauté, qu'on valorise comme un modèle. Je vois Dor et Mathurin de la même manière. Avec eux, le retour dépasse le sport, dit Fabrice Ville, fondateur de l'organisme Pour Trois Points, qui relie la persévérance scolaire au sport. En participant à cette finale, les deux basketteurs tournent les projecteurs vers Montréal-Nord, leur arrondissement natal, qui par moments est victime de fausses perceptions, se désole Ricardo Télamone. Lugansdorf et Bénédicte Mathurin ne se gênent pas pour parler positivement de Montréal-Nord. Ils aident les gens à nous voir différemment, estiment-ils. On veut juste que le monde croit en nous, qu'il parle de nous positivement. Montréal-Nord, c'est comme tous les autres quartiers. Nos enfants sont gentils, aidants, ils travaillent fort. Nos enfants, ce sont des Lugansdorf et des Bénédicte Mathurin, conclut-il. Alors ça, c'était un article qui était dans la presse, du 8 juin, et ça s'intitulait « L'espoir alimenté par Dor et Mathurin ». J'ai quelques minutes devant moi et je m'en vais du côté du Devoir, à peu près à la même date, c'est le 9 juin, et il y a un article qui s'appelle « Les familles de Dor et Mathurin unies pendant la série finale de la NBA ». Les deux familles se sont réunies pour offrir à des jeunes la projection des matchs de la NBA. Par exemple, pendant que Dor et ses coéquipiers du Thunder d'Oklahoma City affrontaient Mathurin et les Pacers de l'Indiana dans le match numéro 2 de la série de championnat, ça c'était dimanche, pas qu'on vient de passer, mais le dimanche précédent, les mères et les sœurs des joueurs étaient assises ensemble à Montréal pour souligner l'exploit accompli par les deux joueurs locaux qui se connaissent bien. Ils ont chacun une fondation pour améliorer le sort des jeunes dans leur communauté. Et ils ont loué l'aréna à Verdun pour pouvoir offrir aux jeunes la projection du match.
Ah, c'est une bonne idée.
Les deux mères, d'ailleurs, les deux mères des joueurs, Erline Mortel, qui est la mère de Lugansdorf, et Elvie Jeune, qui est la mère de Bénédicte Mathurin, étaient assises ensemble et elles ont pris des photos dans l'amphithéâtre pendant la soirée, peu après que Lugansdorf eut soutiré le ballon à Mathurin vers la sixième minute de jeu du match numéro 2.
Compétition saine, alors, finalement.
Ben, eux autres, ils ont compris que Leurs deux jeunes avaient une carrière extraordinaire, mais que leur environnement, Montréal-Nord, c'est important de se tenir ensemble. Et puis que c'est pas une finale de la, même si c'est la finale de la NBA, c'est pas la raison pourquoi on devrait être en confrontation l'une avec l'autre. C'est vraiment même la raison pourquoi montrer que ensemble, on peut faire de belles choses.
Oui, il faut que ça soit rassembleur. Alors,
tout à fait. Alors, c'est pour ça que je voulais vous faire connaître cette histoire de Lugansdorf et de Bénédicte Mathurin. peut-être que ce soir, un des deux sera un des champions de la NBA. Sinon, ce sera dimanche.
Avez-vous une préférence pour les Pacers ou le Thunder?
Je suis pas assez le basketball pour... non, j'ai pas vraiment de préférence.
Nous non plus. Alors, mais l'importance d'avoir des modèles, ça, c'est indéniable. Merci beaucoup, Yvan, pour le partage de ce texte. L'instru que Mathieu a trouvé, a cherché pour vous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
On dit où est-ce qu'on vous trouve, la ligne est fine, ouais. Si c'est pas toi, j'ai pas envie de personne. Si ça te tente, on peut se voir à chaque mois, à chaque fois que ça t'adonne. J'essaye, je te jure, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la vie dure. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulais voir ailleurs. Que pour toi, oh non, mais j'ai pas encore l'habitude. Facile d'être seule si t'es jamais manqué d'amour. Si tu t'étasses, cause dès que ça dérape, que tu veux partir à zéro. C'est pas grave, c'est fini, mets-toi là. J'irai pas faire le tour de l'île pour me faire crisser le cet hiver. Non, j'ai des mi-sommets et à côté sur le mur en chaîne de fusil, pas du mal. Je pourrais m'y faire, c'est sûr, mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai peur de te perdre, mais j'ai pas encore l'habitude. Je pense pas encore que je t'aime, mais je veux pas faire la bisou. Arrête, s'il faut se parler comme ça, te voulais voir, on fait des plans que pour toi. Mais j'ai pas encore l'habitude. J'ai pas encore l'habitude, non. Mais je veux pas te faire la vie de... J'ai pas encore l'habitude. Mais je veux pas te faire la vie de...
L'habitude d'une chanson du groupe Rose.
Oui, le duo qui a remporté le 29e prix Félix Leclerc de la chanson présenté par la SOCAN dans le cadre de la 36e édition des Franco, duo composé de Rose Perron et de Félix Paul. Félicitations. Lire, quel plaisir, Monique.
Oui, quel plaisir en effet, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment? Je sais que vous êtes une grande lectrice.
Ben, je viens de terminer Baignade de André A. Michaud.
Oui, qui a failli gagner au combat national des livres.
Oui, exactement.
Avez-vous eu peur?
C'est un suspense.
Oui.
On est tenu en haleine presque du début à la fin.
Mais quelle écrivaine!
Oui, elle est une écriture colorée, je dirais.
Oui. Et c'est de la littérature, parce que souvent, on a des préjugés là, envers les polars. Mais ici, là, on a affaire à une plume de grand talent. L'importance
Exactement.
De la lecture, Monique, allez-y oui. donc.
Alors, le titre de l'article, c'est « Pas banal la lecture » et c'est Raphaël de Rome pour Québec Science qui nous offre ce petit bijou, je dirais. Alors, comme on sait lire, ben mine de rien, on maîtrise une des compétences les plus complexes que le cerveau humain peut acquérir. Alors, banal la lecture, ben la réponse est définitivement non, Hélène. Parce que, semble-t-il, notre cerveau n'est pas fait pour lire. Enfin, c'est ce que nous dit le neuroscientifique français Stanislas Dehaene dans un ouvrage intitulé « Oui, c'est ça, une idée dans la tête ». C'est un ouvrage de vulgarisation qu'il a publié l'an dernier chez Odile Jacob. Alors, si le bébé apprend à parler spontanément au contact des autres, le cerveau n'a aucune prédisposition à la lecture. Tout simplement parce que l'écriture est une invention trop récente, semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité. C'est donc par l'éducation qu'on développe les neurones de la lecture. En quelques mois, l'apprentissage de la lecture engendre une transformation extraordinaire et massive de notre cerveau, raconte ce professeur au Collège de France qui a scanné le cerveau de dizaines d'enfants et d'adultes dans son laboratoire. Alors, petit à petit, dans la zone du cerveau qui sert à reconnaître les visages, certains circuits se spécialisent dans la reconnaissance des lettres de l'alphabet. Cette zone est connectée à celle du langage dans lesquelles on va reconstituer le son des mots, puis leur sens. Une fois acquise, notre capacité à identifier les mots écrits est automatique. On ne peut presque pas s'en empêcher. Si j'affiche un mot connu en vous disant de ne pas le lire, vous allez le lire automatiquement, nous dit le chercheur. Et il ne vous faudra qu'un cinquième de seconde pour le faire. Mais décoder les mots ne suffit pas. On le sait bien, pour comprendre le texte, il faut connaître le vocabulaire, saisir le sens des phrases. Il faut aussi faire beaucoup de déductions pour lire entre les lignes et comprendre ce qui est implicite, ce qui développe la pensée. C'est pour ça que la lecture est vraiment une avenue royale pour le développement cognitif et langagier. Alors, les parents savent bien que la pratique régulière de la lecture par leur enfant développe ses habiletés verbales et son vocabulaire, stimule son imagination et l'aide à réussir à l'école, montre un sondage de YouGov, Y-O-U, G majuscule O-V, qui a mené auprès de 1000 familles canadiennes pour l'éditeur Scholastic en 2017. Mais peu de parents sont conscients que cela améliore aussi les habiletés sociales et l'empathie, plus particulièrement quand on lit des ouvrages de fiction. Parce que elle est si amusante, la fiction est souvent considérée un peu frivole, comme une chose à laquelle les gens sérieux ne devraient pas consacrer de temps. En fait, c'est ce que constate Sandra Martin-Chang, qui est professeure au département des sciences de l'éducation de l'Université Concordia et spécialiste de la lecture. Et pourtant, pour lire de la fiction, il faut construire un monde dans notre tête, suivre l'histoire, les personnages, ce qui est très exigeant d'un point de vue cognitif. On les imagine, on les voit physiquement, elles sont bien décrites, ces personnes.
Ouais. On devient des réalisatrices ou des réalisateurs, des metteurs en nom, des metteurs en scène.
Oui, tout à fait. Alors, des études ont ainsi montré que ceux et celles qui lisent davantage de fiction sont généralement meilleurs pour décoder les expressions faciales, peut-être parce que les gens déconnent.
Oui, peut-être.
Alors, ou encore que les lecteurs et lectrices de fiction entretiennent moins de préjugés sexistes. Voilà une belle découverte, je trouve. Mais en quoi la lecture de fiction est-elle si efficace? Ne pourrait-on pas développer le même genre de connaissances du comportement humain en lisant, par exemple, des livres de psychologie? Ben, il semble que non. L'avantage de la fiction est très bien démontré par la recherche, même si on n'arrive pas encore à tout à fait expliquer comment cela se produit. Deux chercheurs en psychologie ontariens ont toutefois avancé une hypothèse influente. Donc, selon Raymond A. Maher de l'Université York et Keith Oatley de l'Université de Toronto, la fiction agirait comme un simulateur d'expérience sociale. Comme un simulateur de vol permet à l'apprenti pilote de pratiquer des manœuvres d'atterrissage complexes en toute sécurité, bien, la fiction crée une expérience profonde et immersive. Mais bon, il y a toujours un mais, hein, n'est-ce pas, Hélène? Malgré tous ces bénéfices, ben, les statistiques montrent clairement qu'un peu partout dans le monde, les gens lisent de moins en moins pour le plaisir. La quantité de lecture, alors quand vous allez affronter à la recherche du temps perdu, là, c'est plusieurs heures, hein. La longueur,
c'est un projet.
Le nombre des livres terminés, tout cela est en baisse. Hein. Je souligne le nombre des livres terminés. On les commence, on les finit pas.
Oui, on dirait qu'on a perdu l'attention, on est pressé.
Exactement. Alors, et c'est en baisse tant chez les adultes que chez les enfants. On constate aussi une baisse du nombre de lectures obligatoires, semble-t-il, imposées à l'université. En cause, ben, vous avez parlé de peut-être ce manque d'attention. Mm-hmm. Et ce manque d'attention, il est provoqué par quoi? Les écrans gobeurs de temps. L'injonction à travailler pendant nos temps libres, la difficulté des étudiants et des étudiantes à se concentrer sur des textes longs, une certaine dévalorisation sociale de l'importance de lire toute la vie aussi. On tend beaucoup à associer la lecture aux apprentissages scolaires, mais la lecture, on en a besoin dans la vie quotidienne pour la santé cognitive et mentale, comme on a besoin du sport et de l'alimentation pour la santé physique. On pourrait même aller jusqu'à dire que la lecture est bonne pour la santé physique, puisque selon une étude américaine menée auprès de 3635 personnes âgées, ceux et celles qui lisent beaucoup de livres vivent plus longtemps. C'est pas un bon argument. Et ce, même quand on tient compte des différences de revenus, de niveau d'éducation, de sexe ou d'état de santé. La recherche publiée en 2016 dans Social Science and Medicine montre toutefois que l'effet protecteur de la lecture est plus grand quand on lit des livres que quand on lit des magazines ou des journaux. N'empêche, si la recherche montre des avantages spécifiques à la fiction ou à la lecture de livres, n'importe quelle sorte de lecture a des bénéfices sur le cerveau, nous rappelle Sandra Martin-Chang. Documentaires, bandes dessinées, romans, essais, biographies, pièces de théâtre, poésie, même le guide de l'auto. Dans un contexte où la population lit de moins en moins, chaque livre, et peut-être magazine, ajoute entre parenthèses l'auteur de cet article.
Et on peut lire à travers nos écrans, il y a plein de choses.
Ouais, mais
tous ceux qui lisent des romans dématérialisés, là, numériques.
Oui. Mais vous ne trouvez pas que c'est plus difficile que quand on a le livre entre les mains?
Ah oui, en ce qui me concerne, oui. Je préfère avoir l'objet entre les mains.
Oui, exactement aussi. Bon. Quand on lit, qu'on lit est une victoire, même s'il s'agit d'un ouvrage moins littéraire. La chercheuse Sandra Martin-Chang déplore d'ailleurs le book-shaming, c'est-à-dire l'attitude par laquelle on dévalorise la lecture de certains types d'ouvrages, les romans d'amour ou la littérature jeunesse.
Ah, tu lis ça, toi? non, mais une question avec un préjugé, là, dedans.
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est des livres de piètre qualité, pas nécessairement. Alors ainsi, des écoles interdisent carrément certains livres populaires pour inciter les jeunes à se frotter aux classiques. Je cite Sandra Martin-Chang qui dit « Je suis en faveur de l'enseignement des classiques, mais sans interdire d'autres lectures plus proches des intérêts des jeunes, sinon on risque de leur inculquer un désamour de la lecture. » La recherche est claire, c'est en lisant qu'on devient bon lecteur, d'où l'importance d'encourager les enfants à lire pendant l'été. C'est encore plus crucial chez ceux et celles, enfants et adultes, qui ont des difficultés de lecture. La recherche sur la motivation montre que pour avoir le goût de lire, il faut se sentir capable de le faire, mais peut-être à petite dose, tout doucement, on commence. L'enfant qui trouve ça difficile risque d'être de moins en moins porté à lire. Il aura donc moins d'expérience de lecture. Il va être exposé à moins de mots nouveaux, à moins de phrases complexes. Par conséquent, il ne comprendra pas bien ce qu'il lira. Un cercle vicieux risque alors de s'installer. Ben, pour renverser la vapeur, il faut augmenter l'expérience en lecture afin que celle-ci devienne plus facile et positive. Donc, il faut faire les bons choix de lecture et on y va de soi. Alors oui, lire l'été, c'est fondamental pour les enfants. Pour les adultes aussi, d'ailleurs, surtout si on a délaissé la lecture pendant une certaine période de notre vie ou de l'année. Une fois qu'on recommence à lire, ça devient plus simple, ça va plus vite, c'est moins énergivore, il y a plus de détente et surtout, Hélène, plus de plaisir.
Ben oui, on y revient toujours. Faire partie d'un club de lecture, ça peut être très stimulant aussi.
Oui, mm-hmm. tout à fait. Moi, je participe à un comité qui doit choisir un livre, parce qu'à Eastman, on a une activité qui s'appelle « Un livre, un village » qui existe depuis 15 ans. Alors, ben, ça nous oblige, dans un premier temps, à lire des livres québécois, d'où oui. ma lecture de Baignade. Et cette année, on a choisi « Petite ville ».«
Petite ville » Ah, oui. je ne connais pas.
Vous ne connaissez pas? Ah, Hélène, il faut lire ça. C'est de Milika Abdel-Moumen. Et oui. C'est vraiment un livre très touchant.
Ah oui,
très
Petite touchant. Ville, donc.
Petite ville, exactement.
Merci. Yvan, vous semblez connaître le titre?
Non, c'est l'autrice qui est vraiment quelqu'un qui a une belle réflexion et une très belle plume. Mais Monique, je voulais juste savoir, moi, évidemment, je suis très en faveur de tout ce que vous avez dit sur la lecture, mais je voulais savoir le phénomène du livre audio. Est-ce qu'il a été étudié ou mentionné? Puis qu'est-ce que ça pourrait avoir comme effet sur les gens par rapport à la lecture d'un livre physique?
Dans l'article, malheureusement, on n'en parle pas.
Il faudrait inviter Clotilde Seille. Qui, oui, elle, croit au livre audio et je pense qu'elle a raison aussi.
Écoutez, je pense que c'est une. C'est comme, en fait, lorsqu'on fait la lecture à quelqu'un qui a une difficulté visuelle, je pense que c'est une belle façon de lire, bien sûr.
Une autre manière.
Cependant, je ne sais pas comment les enfants réagissent à ce type de lecture sans avoir en main avec des images, les personnages et tout. Bon, c'est sûr que si on a des difficultés de perception visuelle, c'est autre chose. Là.
Mais en même temps, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Quand on fait un long voyage, là, ça peut être très agréable d'écouter un livre.
Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a le même niveau de concentration? Je ne sais pas.
Moi, en tout cas, le prochain livre que je veux lire avec mes oreilles, là, c'est, je pense que ça se peut-tu que ça soit Paul à la maison qui est disponible sur audio?
Oui.
Ah oui. Et, je vais aller voir la pièce, justement, dimanche.
Oui, j'ai vu la pièce aussi. C'est tellement bon, hein, c'est charmant. Mm-hmm. Et ben, justement, ça commence avec une citation, en tout cas, en ce qui concerne la pièce, parce que j'ai pas lu... j'ai lu la BD, mais je ne sais pas si dans la BD, on commençait avec une citation d'un roman de Danielle Steele, une des autrices préférées de la mère de Michel Rabagliati. Lui, il lit pas du Danielle Steele, mais c'est fait avec beaucoup d'amour, un petit peu de moquerie, mais beaucoup d'amour. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas juger ce que les gens lisent non plus.
Oui, tout à fait. J'ajouterais, Hélène, dans l'article, on nous dit, il y a un sous-titre là, des enfants perdus. Au Canada, 50% des jeunes de 6 à 17 ans disent avoir du mal à trouver des livres qu'ils aiment. Et c'est encore pire chez les lecteurs et lectrices occasionnelles. 70% d'entre eux ne savent pas quoi lire. Alors, je pense qu'il faut... peut-être écouter vos émissions, à vous, Hélène, où vous parlez beaucoup de livres. Écoutez, bien sûr, notre, Madame Fay. Et puis aussi, il y a quelques émissions à la radio qui nous permettent de découvrir aussi des œuvres.
Bien oui.
De différentes catégories.
Il faut ouvrir ses œillères. Mais j'étais complètement dans le champ, moi, parce que c'est pas du tout... la pièce qu'on voit en ce moment, Paul à la maison, chez Duceppe, là, c'est présenté jusqu'au 22 juin et j'encourage les gens à y aller, là, si vous voulez voir Paul à la maison, mais Paul au théâtre. Et c'est pas nécessairement Jojo ce qu'il vit, mais il y a quand même beaucoup d'humour et d'espoir dans cette pièce. Rose à Lille, c'est le livre audio que nous propose Audio Rose à Lille. C'est la plus récente BD, roman graphique, devrais-je dire, de Michel Rabagliati. Oui. Et j'ai entendu beaucoup de bien sur la réalisation de ce livre audio. Michel Rabagliati veillait au grain et c'est du beau travail de Jocelyn Lebeau à la réalisation. Et celui qui joue Paul dans Rose à Lille, dans ce livre audio-là, c'est... comment il s'appelle l'acteur? Là? Steve Laplante.
Qui joue le rôle de la fille?
Ah, ça, je ne sais pas. Je peux pas vous dire, il faudrait que je fasse des recherches rapidement, mais c'est parce que j'allais dire que celui qui joue Paul au théâtre, c'est Hugues Frenette et il le fait de façon merveilleuse. Je sais pas si vous avez trouvé ça aussi, Yvan.
Oui, tout à fait. Non, moi, j'ai été très accroché par toutes ces bandes dessinées-là Et la reproduction au théâtre m'a tout à fait plu.
Ah oui, hein?
Oui, oui, oui. Je pensais que ça allait être très statique, mais je pense que l'esprit de la bande dessinée était bien représenté. Mais en même temps, on était intéressé par la suite des événements et c'était bien représenté sur la scène.
Mm-hmm. Et ça donne le goût d'aller relire ou lire, en tout cas, cette BD qui est très émouvante, Paul à la maison. Mais oui, on vous encourage aussi, si vous avez la chance, d'aller voir la pièce. C'est une pièce qui va être présentée en tournée. Alors, pendant qu'on cherche qui joue Rose dans le livre audio, on va se permettre une petite chanson, Money Money, Chic Macadam.
Thank you.
Il faut que tu trouves du cash pour faire de la money money. C'est partout où tu passes, toujours de la money money. Même quand tu trépasses, encore de la money money. J'ai la vue sur la rivière, mieux que le voisin dans l'arrière. Je vis au maximum dans un grand condominium. Des jambes sans capiton,
money, money.
Un tour à l'épilation,
money, money.
Des lèvres proéminentes, allez on rentre son ventre. Il faut que tu trouves du cash pour faire de la money money. C'est partout où tu passes, toujours de la money money. Même quand tu trépasses, encore de la money money. Bling bling ka ching ching ka pow pow. Des fourmis dans le salon,
money, money.
Une araignée au plafond,
money, money.
La thérapie en privé, toutes les dettes à payer, toujours payer. 70 heures semaine, je me demande où ça mène. Je veux prendre un verre avec toi, une salade à l'avocat, n'importe quoi.
Chic Macadam, le duo composé d'Olivier Lamar et Valérie Bizier qui chantait Money Money.
Merci beaucoup. Et avant de passer la parole à Yvan qui doit nous quitter dans quelques minutes, j'aimerais vous dire que c'est Valérie Telos qui joue le rôle de Rose dans le livre audio Rose à Lille, aux côtés de Steve Laplante qui lui joue le père de Rose. Valérie Telos qu'on peut voir actuellement dans Fleur de peau, si vous avez la chance, sur tout.tv, mais il faut être abonné à Extra. Alors, allez-y donc, cher Yvan.
Oui, ben, ma courte brève, c'est pour vous dire
ça,
que
petit, c'est
sur
court.
Le site de Montougo, montougo.ca, il y a 8 astuces et 20 idées d'activités pour bouger en famille. Et comme l'été commence très, très bientôt, les vacances, etc., je pense que ça peut être une source de motivation intéressante. Parmi les 8 stratégies, je vous les nomme rapidement sans les commenter. On planifie les activités physiques ensemble. On met toutes nos idées, puis on essaie de... On pige une des idées. On donne aux enfants le pouvoir de choisir l'activité pour qu'ils se sentent partie prenante de la décision et de l'activité. On s'informe avant d'essayer une nouvelle activité pour ne pas arriver quelque part puis on n'a pas tout ce qu'il faut pour bien faire l'activité. On favorise le plaisir plutôt que la technique. le plaisir d'être ensemble, surtout. On accepte que ces sorties sportives soient imparfaites, surtout quand c'est une activité nouvelle. On adapte les activités familiales aux préférences de chaque personne. On laisse nos objectifs personnels de côté. Alors, on ne compte pas les pas, on met la montre connectée de côté, etc. Et finalement, on prévoit les petits plus qui font toute la différence, comme par exemple une bonne collation énergisante ou un pique-nique spécial quand on à l'arrivée. Et par la suite, il y a 20 idées d'activités familiales pour tous les goûts. Alors, c'est sur le site montougo.ca.
Parfait. Vous pouvez dire aussi 20 idées, hein? Le thé, ça...
Je peux faire la liaison. Hein? C'est pour ça que je suis coupé comme ça.
Mais je vous le confirme.
D'accord.
Alors, Yvan, là-dessus...
Alors, je vous laisse.
Bon anniversaire et profitez de cette journée. Laissez-vous gâter. C'est votre jour.
Merci beaucoup.
Au plaisir. Alors, on continue avec vous, chère Monique. Monique, on reste dans l'été avec la crème solaire et le chasse moustique, mode d'emploi.
Oui, c'est ça. J'ai une idée fixe, hein? La préparation pour l'été. Alors, bien sûr, avec l'été reviennent les risques de coups de soleil et de piqûres de moustiques. Bien, il y a une équipe du Centre national de recherche scientifique à Toulouse, en France, qui a conduit des tests sur une quarantaine d'échantillons de peau d'environ 8 mm de diamètre provenant de 4 personnes. Alors, l'équipe a comparé différentes façons d'appliquer les produits en vente libre sur ces biopsies. Alors, soit uniquement de la crème solaire, uniquement le chasse-moustique, soit les deux, ou encore un troisième produit combo contenant à la fois une protection solaire et un chasse-moustique. Résultat, lorsqu'on appliquait la crème solaire, suivie aussitôt de l'anti-moustique, on diminuait de moitié la protection de la crème solaire. Les résultats pour le produit combo étaient trop variables pour permettre de conclure quoi que ce soit à ce sujet. Ce qui est important, Hélène, c'est de suivre les recommandations. Et voici la plus importante. Appliquer la crème solaire, attendre au moins 20 minutes pour la laisser pénétrer dans la peau, puis appliquer le répulsif, donc le produit anti-moustique. Et il faut aussi éviter de réappliquer trop souvent de chasse-moustique, pas plus que toutes les 6 heures. Mais le plus simple, c'est peut-être de porter des vêtements longs pour être certain d'être bien protégé, conseille le président de l'Ordre des chimistes du Québec, Michel Alseyer.
Mais, donc, ouais. Des vêtements longs quand on va à la plage, mais...
C'est pas trop pratique.
Non.
Donc, on met la crème solaire, on attend 20 minutes, puis ensuite, on met le chasse-moustique.
Bon. Monique, 15 secondes, c'est vrai pour la capsule linguistique?
Oui, elle est très courte.
OK. Faut-il être ingénieur pour paver la voie?
Ben non. En fait, c'est un calque de l'anglais, toujours, Hélène, to pave the way. En français, on doit plutôt dire ouvrir la voie ou frayer la voie à. Et dans certains contextes, on peut dire préparer le chemin pour.
Préparer le chemin pour. Alors, merci d'ouvrir notre esprit, chère Monique Kirouac. Passez une belle journée. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine.
Oh, c'est sûr, Hélène. Au plaisir.
Au plaisir. Restez pour The Kings et la chronique de Roxane de la Sablonnière.
Vous pouvez vous écouter au quotidien avec Hélène Denis. Chilly is the evening.
Waterloo Station every Friday night. But I am so lazy, don't want to wander, I stay at home at night. But I don't feel afraid, as long as I gaze on Waterloo sunset, I am in paradise.
Écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
On vient d'entendre Tout le monde sauf toi de Clara Luciani. Et juste avant, il y avait Waterloo du groupe The Kinks.
Oui, merci beaucoup Mathieu. Clara Luciani qui est sur la scène des Franco ce soir, la grande scène Rogers à compter de 21h. Et on espère bien que le temps soit de notre bord et de son côté à elle. Parce que s'il pleut à verse avec des orages, là, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. On va suivre ça. Elle est en studio, elle s'appelle Roxane de la Sablonnière, professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être et cofondatrice aussi du projet Intercom. Bonjour Roxane.
Allô Hélène.
Roxane, alors présentez-nous votre sujet.
Oui, j'ai préparé cette chronique avec Mégane Dussault, une étudiante dans l'un de mes cours. Donc, c'est une étudiante à la maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, elle s'intéressait à la grossophobie. Et puis, le lien avec la télé-réalité. Donc, on s'est dit qu'on allait écrire une chronique ensemble. Donc, ça porte sur la différence de poids corporel dans les émissions de télé-réalité.
Ah! Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? J'imagine que oui.
J'espère, parce que ça serait une très courte chronique aujourd'hui.
On n'en saurait pas beaucoup.
Non. Bye-bye! Donc, en Occident, comme vous le savez, l'obésité est en forte augmentation, notamment au Québec, où les taux ont presque doublé entre 1987 et 2014. Donc, dans ce contexte, le concept de grossophobie a émergé. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des comportements, donc c'est un comportement qui a pour but de discriminer, dénigrer, humilier, culpabiliser les personnes qui sont considérées comme obèses ou en surpoids. Donc, les émissions de télé-réalité qui présentent des scènes de vie, de la vie réelle, bien qu'elles soient souvent scénarisées, ont été critiquées pour leur représentation de personnes considérées comme obèses ou en surpoids, parce que souvent, elles mettaient fréquemment en scène des scènes de manière caricaturale.
Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par des représentations caricaturales?
Bien, il y a des analyses de contenu qui ont été faites qui examinent ce qu'on voit, ce qu'on entend à l'écran et qui ont démontré que certaines émissions de télé-réalité présentent des personnes considérées comme obèses ou en surpoids dans des scènes associées souvent à des mensonges sur leur santé, de la nudité, des insultes, des angles de caméra sexualisants, puis et même de la gloutonnerie. Ces résultats de ces recherches sont cohérents avec d'autres recherches aussi sur les contenus télévisuels, en général qui suggèrent que les personnes considérées comme obèses ou en surpoids sont souvent moins montrées avec des partenaires romantiques ou amicaux, moins attirants, donc plus souvent représentées en train de manger que des personnes de poids moyen. Donc, ces contenus renforcent les représentations de ces personnes comme étant soit hyper sexualisées, grotesques, puisque ces représentations ne reflètent pas la diversité, donc elles peuvent être définies comme des stéréotypes, c'est-à-dire des idées qu'on a toutes faites, des images caricaturales qui influencent négativement notre façon de percevoir les gens, d'interagir avec eux et de les traiter.
Bon, alors on comprend que dans les téléréalités, les représentations des personnes considérées comme obèses ou en surpoids sont caricaturales, mais ça reste quand même du divertissement.
Oui, c'est sûr, ces émissions peuvent nous divertir. Moi-même, j'en écoute des émissions de téléréalité. Donc, certaines ont des audiences de centaines de milliers de téléspectateurs par épisode. Ils cumulent les millions de visionnements sur YouTube. Toutefois, ce divertissement, il a le pouvoir de façonner notre vision du monde aussi. Donc, on est influencé par ce qu'on voit, ce qu'on entend autour de nous. Si on prend, par exemple, l'émission « Qui perd gagne », donc c'est une émission de télé-réalité américaine où il y a 14 personnes qui concourent pour un prix de 250 000 $ en visant la plus grande perte de poids à l'aide d'un entraînement intensif puis d'une diète stricte. Ouais.
Jamais vu cette émission.
Bien, j'en ai déjà entendu parler, oui, c'est ça. C'est quand même assez populaire.
Ça doit.
Oui, et là, je crois que l'émission a maintenant arrêté, mais on peut retrouver les épisodes là, sur YouTube, tout ça. Donc, il y a une étude scientifique qui a séparé en deux groupes des étudiants et étudiantes de premier cycle en psychologie d'une université américaine de l'Ohio, donc l'Université d'État de Bowling Green. Donc, un groupe visionnait un épisode de Qui perd gagne et l'autre groupe un documentaire sur la nature. Donc, les chercheurs ont pu déterminer que les personnes qui avaient visionné Hypergang avaient une plus grande aversion envers les personnes considérées comme obèses ou en surpoids. Ils croyaient aussi davantage que la perte de poids était contrôlable, contrairement aux personnes qui avaient visionné le documentaire sur la nature.
Aussi, mais c'est le concept de l'émission.
Oui, oui, mais c'est de ressentir une aversion envers ces personnes-là. Parce qu'on pourrait avoir une émission, tu sais, si les représentations sont mieux faites de ces personnes-là, moins stéréotypées, moins caricaturales, peut-être qu'on n'aurait pas cette aversion-là.
Tout à fait. C'est comme si le concept encourageait cette aversion.
Exactement. Donc, cette aversion aussi est plus forte chez les étudiants qui ont un poids moyen ou qui n'ont pas l'intention de maigrir. Donc, il y a vraiment une histoire ici. On a deux groupes, les personnes en surpoids ou obèses, puis les personnes de poids moyen ou qui n'ont pas besoin de perdre de poids. Donc, on revient à un concept qu'on a souvent abordé ici, donc le biais pro-endogroupe, ça veut dire qu'on favorise notre propre groupe. Donc, on considère les personnes qui sont différentes, bien, c'est-à-dire on a tendance à favoriser les personnes qui nous ressemblent.
Ouais. Donc, si on s'identifie.
Auxquelles on s'identifie. Il y a une autre étude aussi qui a été menée avec des adolescents, des adolescentes. Donc, encore là, on les a divisés en deux groupes. On s'était assuré que les groupes étaient équivalents. Donc, les groupes visionnaient des courts extraits, soit d'une des versions de Hypergang qui présentait des personnes adolescentes, ou soit un magazine scientifique télévisuel. Donc, les chercheurs ont décelé que les réactions automatiques négatives envers les personnes considérées comme obèses ou en surpoids, donc étaient plus élevées chez les personnes adolescentes qui avaient visionné Hypergang comparativement à ceux qui avaient visionné un extrait d'un magazine scientifique télévisuel. Donc, ces personnes qui avaient visionné ce Hypergang trouvaient davantage que les images des personnes considérées comme obèses ou en surpoids étaient désagréables. En plus, dans cette étude, les personnes adolescentes craignaient de devenir obèses. Donc, ça a amené... Donc, après avoir visionné Hypergang, ils exprimaient aussi plus de jugement envers les personnes considérées comme obèses que celles ayant visionné le magazine télévisuel. Puis aussi, ils croyaient fortement que les personnes obèses n'étaient pas capables de contrôler...
Ouais.
De se contrôler.
Pas très sain. Hein? Ces émissions peuvent avoir un effet sur le public. Là, vous venez de nous l'exposer. Est-ce que ce sont ces effets que vous définissez comme de la grossophobie, Roxane?
Bien, la grossophobie, pas nécessairement, parce que la grossophobie, c'est vraiment un comportement comparativement à une idée ou à une émotion ou une réponse automatique, une pensée. Donc, c'est vraiment un comportement. Les pensées, les émotions sont plus internes. T'sais, on peut penser ici au dégoût, à l'irritation, à de l'aversion. Donc, c'est vraiment un biais affectif qu'on a. Par contre, quand on exprime notre jugement, par exemple sur le caractère contrôlable du poids,
ouais.
Bien, ça se rapproche de la grossophobie parce que là, la personne peut se sentir mal, elle peut se sentir coupable, elle peut vivre une émotion. Des fois, le jugement peut se faire de manière implicite ou s'il n'est pas nécessairement direct. Une personne ne va pas nécessairement dire « toi, tu es grosse » ou « toi, tu es en surpoids », mais elle va peut-être « ah, oh, tu manges encore ça ». Donc, ouais. Ça peut être plus subtil. Puis là, on se rapproche de la grossophobie parce que c'est un comportement qu'on émet, c'est un jugement.
Ça peut être aussi juste dans le regard.
Ça peut être juste dans le regard. C'est souvent ce concept de micro-agression qu'on aborde qui est plus subtil.
Mais qui fait tout aussi mal.
Qui peut faire tout aussi mal, ouais. En effet, surtout s'il y a un caractère répétitif de ces micro-agressions. Donc, si je vois...
Ça devient une macro-agression.
Oui, ça
quand
peut.
Quand c'est répétitif.
Ça peut devenir... Je ne sais pas si le terme existe, non, mais on pourrait l'inventer, Hélène, si vous
c'est
voulez.
Déjà... C'est fait.
Puis, c'est important aussi de souligner la responsabilité des personnes qui produisent ces contenus télévisuels. Donc, ils contribuent à renforcer les stéréotypes à travers le choix des scènes qu'ils présentent. Parce qu'on peut s'imaginer ce type d'émission qui pourrait être plus axée sur la santé, plus t'sais, plus sain,
ouais.
mais c'est pas nécessairement ce qu'on retrouve. Donc, parce que souvent, on voit l'échec des personnes. Puis quand on voit cet échec-là, on va l'attribuer à la personne elle-même et pas nécessairement à la diète qui leur a été proposée ou à d'autres facteurs. Donc, c'est ce qui peut entrer en jeu aussi.
Alors, comment limiter les effets de ce type de réalité sur le monde, sur le public?
Les équipes de production pourraient vraiment tenir compte de ces représentations négatives, de l'influence qu'ils ou elles ont.
De réfléchir avant d'aller de l'avant.
Oui, peut-être, de vraiment penser à ça. On a souvent parlé des émissions de télé-réalité comme un nivellement vers le bas, une normalisation vers le bas. Donc, peut-être de réfléchir à ça aussi quand on produit des émissions de télé-réalité.
On pense beaucoup à code d'écoute aussi. Hein.
Oui, mais c'est peu probable que ça arrive.
Ouais.
Donc, je ne veux pas être pessimiste. Donc, ça
revient. Vous êtes réaliste.
Ça revient souvent, encore une fois.
Vous êtes téléréaliste.
OK, je ne l'avais pas compris.
Non, moi non plus, je viens de la faire.
C'est trop rapide ce matin, là. C'est vraiment au public d'adopter un regard critique envers ce qu'il
ouais.
voit. Puis ça, c'est pas facile tout le temps non plus. On écoute ça, on réfléchit pas
trop.
On
est responsable.
Oui, on est responsable d'avoir ce regard critique-là. Aussi, de se rappeler que la télé-réalité, ça reflète pas toujours la réalité, que c'est scénarisé.
Ça demande la télé.
Ça demande la télé, puis souvent, ils refont les scènes, puis ils veulent avoir, comme vous dites, des codes d'écoute. Donc, et que finalement, les biais affectifs qu'on a sont souvent inconscient, donc d'en prendre conscience. Donc, c'est possible que j'ai une pensée plus négative envers une personne en surpoids si je la vois manger, par exemple, mais est-ce que je vais lui dire ou est-ce que je vais plutôt me dire, ben voyons, pourquoi j'ai pensé ça, puis avoir un genre d'introspection envers moi-même pour essayer de travailler ces représentations pour qu'elles ne soient pas néfastes à long terme pour les personnes qui sont en surpoids ou des personnes obèses.
Rester critique par rapport à ce genre d'émission-là et empathique aussi par rapport aux personnes que l'on voit peut-être, manger de façon outrancière, mais il y a souvent quelque chose qui se cache derrière ça.
Oui, bien, il y a plusieurs facteurs. Puis ça, j'ai pas cette expertise-là non plus. Mais
moi non plus.
C'est vraiment de... Puis ça, on parle de biais ici envers des personnes obèses ou en surpoids, mais c'est la même chose par rapport à la diversité sexuelle, par rapport à la diversité, les minorités visibles, par exemple. Souvent, on a des idées préconçues.
Mm-hmm.
Fait que c'est toujours de se ramener à soi ou à notre groupe, hein, notre groupe auquel on appartient, puis de se dire, bien, est-ce que ces personnes-là sont si différentes de moi? Puis qu'est-ce qui se rejoint pour essayer justement de... Puis quand on fait ce travail de réflexion-là, souvent on se rend compte que bien, finalement, elles sont beaucoup plus pareilles que moi que différentes.
Alors, c'est sur ces bons mots qu'on va se laisser, des mots pleins de sagesse et d'intelligence. Merci beaucoup, Roxane de la Sablonnière, et j'en profite pour vous souhaiter un merveilleux été.
Merci, vous aussi.
On se retrouve en septembre, j'espère bien.
Angers. pas jouir. Et quand tu iras au ciel, tu penseras à moi. Oui, quand tu iras au ciel, tu penseras à moi.
Une nouveauté du groupe Pamplemousse, c'était Angélique.
Merci beaucoup. Mathieu, vous savez qu'on a reçu Jeannine Marois, qui est la présidente du Mondial de la bière, et qui commence le 20 juin, qui se poursuit jusqu'au 22 juin. Ça s'en vient très, très bientôt. Et vous m'aviez proposé la question, est-ce qu'il y a de la bière sans gluten? Bon, ça existe, mais au Mondial de la bière, j'ai reçu cette réponse. On a du cidre sans gluten, de l'hydromel sans gluten, du vin sans gluten et autres produits également. Pour la bière, on n'est pas encore sûr à 100%. Alors, ça existe, mais est-ce que ça va être au Mondial de la bière? C'est à voir. Ça se passe, comme vous le savez, peut-être à la gare Windsor et aussi dans la cour Rio Tinto à partir du 20 juin. Alors, je voulais vous parler du transport entre la résidence et le lieu de travail qui génère des impacts lourds sur la santé mentale selon une étude qui a été publiée sur avantage.ca le 16 juin dernier. Se déplacer pour se rendre et revenir du lieu de travail pèse d'un grand poids sur la santé mentale des travailleurs. Selon l'étude française de l'Institut TERAM et de l'Alliance pour la santé mentale, intitulée « Mobilité, la santé mentale à l'épreuve des transports », l'étude a été menée auprès de 3300 Français. 3 travailleurs sur 10 considèrent que les trajets quotidiens entre leur domicile et le lieu de travail pèsent directement sur leur santé. Parmi les personnes qui ont vécu un stress intense, 43 % d'entre elles attribuent leur état notamment aux difficultés rencontrées dans les transports. C'est aussi le cas de 41 % de celles souffrant de troubles du sommeil, comme de celles vivant des épisodes dépressifs, de 44 % de celles qui prennent des antidépresseurs et de 46 % de celles qui ont vécu des épisodes de colère violente. Plus la distance parcourue est importante, plus les effets se font sentir. Ce sont 67 % des personnes qui ressentent cette aggravation au-delà de 50 km contre seulement 19 % en dessous de 5 km et ça se déroule en France. Si on se reporte, on revient au Québec, à Chambly. Chambly qui est très fière d'annoncer qu'elle a remporté 2 distinctions au gala Nomina qui célèbre l'excellence et l'innovation en loisirs et en sport à l'échelle du Québec. La ville s'est vue remettre le prix Excellence, coopération et concertation pour son projet d'activité d'inclusion et de sensibilisation à l'égard des personnes handicapées, réalisé en partenariat avec Zone Loisirs Montérégie, et le prix Innovation, parc et espace récréatif pour la conception du parc naturel des Ruisseaux, un projet d'aménagement durable, inclusif et inspirant. Alors, je vais vous parler du prix Excellence, coopération et concertation, un engagement envers l'inclusion des personnes handicapées. Ayant à cœur le mieux-être de ses citoyens, la ville de Chambly a adopté une vision inclusive axée sur l'accessibilité universelle, tant dans le développement ou le réaménagement de ses infrastructures que dans le déploiement de ses programmes et services. Grâce à la mise en œuvre d'un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, Chambly améliore continuellement la qualité de vie de ses citoyens. Dans cette optique, la Ville a collaboré avec Zone Loisirs Montérégie pour intégrer des activités de sensibilisation adaptées dans le cadre des fêtes de quartier, avec l'appui de divers partenaires en santé publique. 4 événements ont été organisés à l'été 2024 où les participants ont pu expérimenter des activités comme le Gold Ball, un parcours adapté de serpents à échelle géant et des ateliers musicaux. Chambly souhaite agir comme modèle communautaire en favorisant un milieu de vie stimulant, équitable, sécuritaire et accessible pour tous.
Mmh.
on sera pas là pour vous souhaiter un bel été. Alors, je vous souhaite un bel été à l'avance. L'été qui arrive demain, le 20 juin, solstice d'été. Donc, une journée où il fera clair encore plus longtemps. Profitez-en bien de ce premier week-end estival. Merci à Mathieu Tessier en régie. Mathieu, mon complice de toujours. Passez une belle fin de semaine, Mathieu.
Merci, vous aussi.
Merci. Ici Hélène Denis. Bon week-end. À lundi, 9h30.